Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Anastasie Tudiech, bonsoir et bienvenue à cette édition du jeudi 10 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Au Burundi, environ 3 mois après la mort de plus d'une centaine de personnes dans des quartiers contestataires, le procureur général publie son rapport.
Toutes les allégations faisant état de fosses communes où auraient été enterrées les personnes tuées le 11 décembre 2015, comme l'affirme certaines ONG internationales, ne sont pas fondées selon le procureur général de la République.
Au Tchad, coup d'envoi du sifflet citoyen, une autre manifestation de la société civile contre le président Idriss Déby Itno.
Kinshasa appelle ses partenaires étrangers à une coopération positive.
Au Gabon, des caciques du régime ont annoncé leur intention de présenter un candidat face au président sortant, Ali Bongo Ondimba.
Crise migratoire, la Commission européenne veut accélérer la relocalisation des réfugiés.
Nous parlerons aussi de la visite à Washington du nouveau Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, le procureur général de la République vient donc de donner les principales conclusions de la commission d'enquête mise en place par le gouvernement après la mort de plus d'une centaine de personnes dans certains quartiers contestataires les 11 et 12 décembre 2015. Des organisations des droits de l'homme et certaines ONG internationales avaient parlé d'exécutions extrajudiciaires et de l'existence de fosses communes. Le rapport du parquet apporte un démenti. Christophe Kourouziza nous en dit plus.
Le 11 décembre 2015, Bujumbura dormit sous les coups d'armes automatiques et d'explosions de grenades après l'attaque de 4 camps militaires dans les provinces de Bujumbura et Bujumbura Oural, selon un rapport que le procureur général de la République vient de rendre public ce jeudi. Ce dernier affirme que des combattants d'un groupe armé non encore identifié se sont alors rendus dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les forces de défense et de sécurité, en poursuivant ces combattants en tenue militaire et policière, ont tué 87 personnes, dont 4 militaires, 4 policiers et 70 combattants. Le procureur général de la République confirme que ceux qui n'ont pas été identifiés ont été enterrés dans les cimetières de Kanyo Chaimpanda pour des raisons de salubrité. Mais 87 autres assaillants sont aujourd'hui incarcérés dans la prison de Muramvya au centre du Burundi. Cependant, observe le procureur général de la République, 7 combattants ont été retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Un dossier répressif a déjà été ouvert. Toutes les allégations faisant état de fosses communes où auraient été enterrées les personnes tuées le 11 décembre 2015, comme l'affirment certaines ONG internationales, ne sont pas fondées, selon toujours le procureur général de la République. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Des divisions ont éclaté au sein du parti au pouvoir au Gabon avant la présidentielle prévue au second semestre 2016. Plusieurs caciques du régime ayant annoncé ce jeudi leur intention de présenter un candidat face au président sortant, Ali Bongo Ondimba. Une quinzaine de députés et d'anciens ministres du Parti démocratique gabonais, PDG, rassemblés au sein du courant baptisé Héritage et Modernité, HEM, ont réuni lors d'un grand meeting à Libreville, outre les dissidents internes au parti, de nombreux leaders de l'opposition et figures de la société civile. A constaté un journaliste de l'AFP. Mercredi, un communiqué du PDG avait annoncé l'exclusion d'Alexandre Barrault-Chambrier, Michel Menga et Jonathan Binyumba du parti au pouvoir, une décision jugée irrégulière par les principaux intéressés.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé ses partenaires étrangers à faire preuve d'une coopération positive 2 jours après que l'Union européenne s'est déclarée préoccupée par les harcèlements d'opposants dans le pays. Les précisions de John Linden.
Depuis des mois, l'ONU dénonce ce qu'elle qualifie de vagues d'arrestations arbitraires d'opposants et autres militants de la société civile en République démocratique du Congo. L'Union européenne s'est dit préoccupée par les actes de harcèlement d'opposants, de la société civile et des médias. Mardi, la délégation de l'Union européenne à Kinshasa a estimé que le respect des droits de l'homme et des libertés civiles était crucial afin de permettre des élections transparentes, apaisées et crédibles. Pour Lambert Mende, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, il n'est pas juste de croire ou faire croire que les autorités congolaises sont moins préoccupées par les droits fondamentaux de leurs compatriotes que leurs partenaires. Le climat politique reste très tendu en RDC. L'opposition soupçonne le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de vouloir demeurer à la tête du pays au terme de son mandat en décembre 2016, alors que la Constitution lui interdit de se représenter.
L'armée sud-africaine a annoncé aujourd'hui qu'un soldat, membre du contingent qui escortait un convoi d'approvisionnement du programme alimentaire mondial, a été tué hier dans une embuscade au Darfour. Le mois dernier, le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé, sans donner d'explication, le retrait du contingent de son pays dans cette mission début avril, au moment où 85 000 civils étaient chassés de chez eux après 5 semaines d'intenses combats. L'ONU redoute le déplacement de 50 000 autres personnes.
Il faut dire Anastasie que le conflit au Darfour a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, selon des chiffres fournis par l'Organisation des Nations Unies.
On reste en Afrique du Sud. Donc Janus Wallus, l'assassin de Chris Hani, héros communiste de la lutte anti-apartheid, sera remis en liberté surveillée dans les prochains jours, après 23 ans de détention. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son avocat à l'AFP. Janus, un immigrant polonais tenant de l'aile dure d'extrême droite du régime d'apartheid, a abattu Chris Hani en 1993. Il avait été condamné à mort, mais le nouveau régime a aboli la peine capitale en 1994 et sa peine avait été commuée en réclusion criminelle à perpétuité. La famille de Hani s'est toujours opposée à la remise en liberté de Wallus, pointant le fait que ce dernier n'a jamais exprimé de remords pour son acte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, crise des migrants, les ministres des 28 pays européens se sont réunis aujourd'hui, jeudi, pour accélérer la relocalisation des réfugiés depuis l'Italie et la Grèce et aider la Grèce à traverser cette crise. Le projet d'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur la question de ces migrants soulève de graves inquiétudes à l'ONU. Maëlys Hegel.
Mercredi, la Slovénie a décidé de ne plus laisser passer de réfugiés sans visa sur son territoire. La Croatie, la Serbie et la Macédoine ont aussitôt fait de même. La route des Balkans est donc désormais fermée depuis mercredi. Sauf exception humanitaire, seuls les migrants désirant demander l'asile en Slovénie sont désormais autorisés à entrer dans ce pays. Cette décision accentue le risque de crise humanitaire en Grèce, les migrants ne pouvant plus quitter ce pays. Plus de 36 000 sont bloqués, dont environ 13 000 à Idoménie, à la frontière macédonienne, dans des conditions exécrables. La fermeture de la route des Balkans augmente la pression sur l'Union européenne et la Turquie pour finaliser l'accord destiné à réguler le flux de réfugiés qui traversent la mer Égée depuis la Turquie jusqu'en Grèce. Cet accord verrait la Turquie accepter la réadmission sur son territoire de tous les migrants arrivés clandestinement en Grèce, y compris les Syriens qui fuient la guerre dans leur pays. En échange, les Européens s'engageraient, pour chaque Syrien renvoyé, à transférer un réfugié syrien depuis la Turquie vers le territoire de l'Union européenne. Mais ces expulsions collectives et arbitraires sont jugées illégales par l'ONU et violant le droit international et européen.
En Irak, des centaines d'habitants de Taza, dans le nord du pays, ont bloqué une autoroute pour réclamer au gouvernement de bombarder le groupe État islamique. Ils accusent le groupe djihadiste d'utiliser des armes chimiques. Idriss Fall.
L'autoroute entre Kirkuk et Bagdad a été bloquée par ces manifestants. Sur une de leurs banderoles, on pouvait lire, et je cite, « 30 000 personnes à Taza sont quotidiennement bombardées et le gouvernement reste silencieux ». Taza se trouve dans une zone où sont déployées des forces kurdes et des milices chiites. La cité se trouve près de Bashir, une localité contrôlée par le groupe État islamique qui tire ses projectiles. Selon le maire Hussein Abbas, hier, sa ville a été ciblée pendant 3 heures par environ 45 roquettes. D'après Burhan Abdallah, un responsable de santé, près de 200 personnes ont été prises en charge médicalement. Des responsables locaux ont même indiqué que du chlore a été utilisé, mais cette information n'a pas été confirmée par une source indépendante. En février, John Brennan, directeur de la CIA, avait affirmé que Daesh a déjà utilisé des armes chimiques et pouvait fabriquer de petites quantités de gaz moutarde.
Un soldat libanais et 8 hommes armés ont été tués aujourd'hui dans des combats entre l'armée libanaise et des djihadistes dans le nord-est du Liban, près de la frontière syrienne, a indiqué à l'agence France-Presse un responsable de la sécurité. Depuis le début du conflit en 2011, chez son voisin syrien, rappelle l'AFP, le Liban est régulièrement le théâtre d'attentats à la bombe et de combats entre l'armée et des djihadistes.
Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est dit opposé à toute forme de violence tout en se gardant de condamner expressément les récentes attaques anti-israéliennes malgré les critiques implicites du vice-président américain Joe Biden contre les dirigeants palestiniens la veille à ce propos. Notre main est tendue pour une paix fondée sur la justice et le respect des droits de chacun. Nous sommes contre la violence, l'extrémisme et le terrorisme, d'où qu'ils viennent, a dit M. Abbas devant la presse à Ramallah, en Cisjordanie occupée, à l'occasion de la visite du président roumain Klaus Iohannis.
5 personnes ont été tuées par balle lors d'une fête dans une maison à Wilkinsburg, une ville de Pennsylvanie, dans le nord-est des États-Unis. Parmi il y a eu aussi des blessés et parmi eux, 2 hommes se trouvaient dans un état grave, a précisé la police, qui a ajouté être lancé à la recherche d'au moins 2 suspects.
Le président américain Barack Obama a annoncé aujourd'hui, lors d'une visite à Washington du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qu'il se rendrait d'ici la fin de son mandat au Canada, où il s'adressera aux parlementaires à Ottawa.
L'ex-opposante birmane Aung San Suu Kyi ne sera pas présidente de son pays. Son parti a proposé pour le poste un de ses proches. La prix Nobel de la paix est écartée pour avoir épousé un Britannique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Linden.
La société Uber prévoit d'étendre ses services en Tanzanie, en Ouganda et au Ghana cette année et mettra l'accent sur les chauffeurs de taxi traditionnels en essayant de les convaincre de travailler pour elle. Mais parmi les défis qui attendent Uber en Afrique, il y a notamment les routes encombrées ou mal faites, le taux de criminalité parfois élevé dans certaines villes et le peu d'utilisation des cartes de crédit. La Côte d'Ivoire, l'autre pays de l'or, c'est en tout cas l'ambition des autorités qui ont souligné aujourd'hui dans un communiqué la constante progression de la production nationale d'or, passée de 20 tonnes en 2014 à 23,5 tonnes en 2015. Le pays a par ailleurs annoncé la découverte de son plus grand gisement d'or, dont les réserves ont été évaluées à 200 tonnes. Le premier lingot a été annoncé pour 2017. Au Cameroun, la Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles et la CAIC, une filiale locale d'un groupe indo-chinois, ont signé jeudi à Yaoundé une convention de mise à disposition de 15 hectares de terrain à Douala et à Kribi pour la construction de 2 usines de montage et d'assemblage de véhicules lourds et légers, a constaté l'agence APA sur place. Le projet, d'un montant de 92 milliards de francs CFA, sera concrétisé en juin prochain et permettra la création de plus de 4 000 emplois directs.
C'était la Minute Éco. Merci, John Linden.
Je crois qu'ils disent sport dans ce thème, c'est ça, Anastasie?
Sûrement.
Et on passe au sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Eric. Gabi, salut Anastasie.
Alors, on parle football, Champions League. Le maillot irrite les supporters, explique.
Oui, Gabi, c'était hier entre le PSG et Chelsea à Londres lors du match retour en 8e de finale. L'échange de maillots à la mi-temps entre Eden Hazard et Angel Di Maria déchaîne aujourd'hui une presse britannique choquée par le Belge de Chelsea. Le geste a été posé à la mi-temps de la défaite contre le PSG. Roy Keane, l'ex-milieu de terrain de Manchester United, devenu consultant sur ITV, a enfoncé le clou. Pour lui, c'est déjà mal de faire ça à la fin du match, mais à la mi-temps d'un gros match, que deux gars échangent leur maillot, c'est choquant. Moi, je n'oserais même pas faire ça à la fin, avant de s'interroger sur ce qui passe par la tête du joueur. C'est Roy Keane qui s'interroge, c'est pas moi.
On va parler de sextape. Euro 2016, vendredi, crucial pour Benzema.
Oui, la justice s'est appelée à trancher sur le contrôle judiciaire imposé à l'attaquant français, mis en examen le 5 novembre pour des infractions passibles de 5 ans d'emprisonnement. L'avenir de Karim Benzema en équipe de France et sa participation à l'Euro 2016 se jouent en grande partie ce vendredi.
Et à la FIFA, un anniversaire au goût amer, celui de Joseph Blatter ?
Pas du tout. L'ancien président de la FIFA fête ce soir ses 80 ans. Une centaine d'invités sont attendus à l'hôtel Savoie-Bord en ville de Zurich. Un gâteau Anastasie d'anniversaire est prévu, mais sans bougie, il faut le souligner. Pourquoi Anastasie ? Parce que c'est Blatter estime que la vie, c'est la lumière. Et ce n'est pas à 80 ans qu'il va éteindre la lumière. Je ne souffle pas ma vie.
On a quelques secondes seulement pour les résultats en basket. Quelques secondes.
Oui, Oklahoma City a écrasé Clippers. Golden State a gagné contre Utah. Dallas a battu Détroit. Et Sacramento a perdu contre Cleveland.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce jeudi. Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Anastasie, c'est N'Djamena.
Oui, Gabi, ce jeudi 10 mars, une dizaine d'associations de la société civile tchadienne, réunies sous la bannière « Trop, c'est trop », avaient appelé la population à se servir d'un sifflet pour demander la fin de la mauvaise gouvernance et l'alternance politique dans un pays dirigé depuis 26 ans par Idriss Déby Itno. D'ailleurs, le président tchadien est candidat à un cinquième mandat à la présidentielle du 10 avril. Cette action citoyenne consiste à siffler pendant 15 minutes à partir de 5h30 du matin et 15 minutes le soir à partir de 21h30, précisait un communiqué de la société civile diffusé hier mercredi. Timothée Donongmaï a joint Mahmat Nouri Bédou, porte-parole de cette coalition des organisations de la société civile.
Il y a quelques jours, le pouvoir a acheté tous les sifflets sur le marché. Les gens ont fait quand même l'effort de siffler, certains sans siffler, en croisant les doigts et puis en sifflant très fort à l'heure indiquée, bien que nous avons obtenu un pourcentage vraiment énorme.
Pourquoi avoir choisi cette façon de manifester?
Connaissant notre police avec sa répression habituelle, nous avons opté pour des actions citoyennes, mais pacifiques, et surtout des actions passives, là où les forces de l'ordre n'ont aucune emprise. C'est pas interdit de siffler. Chez soi, on reste là où tu veux. Il y a eu des policiers, mais ils étaient impuissants devant cette forme de contestation parce qu'ils ne savaient pas comment intervenir. Si les gens étaient sortis, ils allaient commencer leur répression habituelle, mais ils sont restés à la maison et ils se sont mis à siffler et voilà.
Que demandez-vous exactement?
Le départ du président Déby. Parce que 25 ans de misère, 25 ans de navigation à vue, il n'a aucune politique sociale, aucune politique sanitaire, aucune politique d'emploi. Le budget est très mal exécuté. C'est une gestion épicière des recettes de l'État. Parce que toutes les richesses sont accaparées par Déby et sa famille. Le reste vit dans la misère. Figurez-vous que dans les campagnes, les gens partent creuser des fourmilières pour recueillir les graines amassées par les fourmis pour nourrir leurs enfants. Pendant que le pays a engrangé plusieurs milliers de milliards depuis la vente du pétrole en 2005. Aujourd'hui, on en arrive à même pas payer de salaire.
Mais le président Idriss Déby ne peut partir que par les urnes puisque la Constitution lui reconnaît le droit de briguer la présidence le 10 avril prochain.
Bien sûr qu'il a le droit de se représenter parce qu'il a pris soin de modifier la Constitution. Nous sommes d'accord, mais nous refusons à Déby le droit de se présenter parce que Déby n'est pas un candidat ordinaire. Déby est l'homme qui a détenu ce pays pendant 25 ans.
Mais dans ce cas, pourquoi ne pas attendre que les Tchadiens eux-mêmes se prononcent sur la question?
Nous ne nous faisons aucune illusion sur la transparence des résultats. Parce que le dispositif est déjà là. Vous commencez par l'opérateur biométrique. Dans la soumission, il était arrivé troisième, Morpho. Or, c'est lui qu'on a choisi. On connaît Morpho parce qu'ailleurs, il y a des pays qui lui ont intenté des procès pour justement avoir traficoté les résultats des élections. Bon, il y a également le recensement des étrangers, en l'occurrence des Soudanais, le recensement des mineurs, sans compter que Déby a refusé l'équipe d'identification. Cette équipe d'identification permet d'éviter le vote multiple.
Mahmat Nouri Bédou, joint N'Djamena par Timothée Donangmaï.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
En mer Cap sur Ouagadougou, l'opposition politique burkinabé a fait ce jeudi sa première conférence de presse qui a valeur de rentrée politique sous la houlette de Zéphirin Diabré, son chef de file. Monsieur Diabré porte ce titre grâce à ses scores aux élections couplées présidentielles et législatives. Si les tenants actuels du pouvoir sont ceux avec qui il a combattu le régime de Blaise Compaoré, Zéphirin Diabré promet que l'opposition jouera son rôle et ne sera pas une opposition mouton. Zoumana Ouenogo.
L'opposition burkinabé a un nouveau visage. Elle est maintenant composée des partis qui ont soutenu le régime de Blaise Compaoré et ceux qui les ont combattus jusqu'à l'insurrection. Alors, comment s'opposer à des gouvernants avec lesquels on a combattu le régime de Blaise Compaoré? Écoutons les explications de Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition.
C'est dans le cadre de la République donc, que nous allons exercer notre devoir républicain, qui est d'être le contre-pouvoir face donc à ceux qui gouvernent le pays, et qui est surtout d'être le proposeur d'une alternative à la politique donc, qui est menée par ceux qui sont donc au pouvoir. Ce n'est pas une opposition mouton qui est en face, mais plutôt une opposition ragaillardie qui critique déjà, au niveau déjà de l'Assemblée nationale, certains aspects donc de la manière de gérer et qui ne se taira pas pour ce qui est donc des questions relatives donc à la vie du pays.
Le temps est ainsi donné avec la lecture de la situation sécuritaire de Gilbert Noël Ouédraogo, le président de l'ADF-RDA, portant sur les groupes d'autodéfense appelés Kaoulouégo.
Il y a une situation de fait qui s'est créée. Il faut maintenant que les autorités en place qui ont la charge donc de la gestion des affaires de l'État puisse apporter la solution. L'autorité élue qui a la responsabilité de gérer et la sécurité des citoyens et l'organisation au niveau national et de faire en sorte que force reste à la loi.
Le président de la NAFA, Nouvelle Alliance du FASO, porte lui un œil critique sur les mesures sociales du gouvernement. On l'écoute.
Nous pensons que ces mesures sont bonnes dans leur esprit et dans leur principe. Mais ce sont des mesures prises dans la précipitation, sans une évaluation conséquente des sujets auxquels elles se rapportent. Donc ce qui laisse penser que ce sont des mesures pour pallier à la pression qui commence à se faire sentir, mais également peut-être des mesures à viser électoraliste à l'approche des municipales.
Quant au chef de file de l'opposition, il s'est essayé à la comptabilité des emplois que le président Rochmar Christian Kaworé a promis créer pendant la campagne politique.
Ceux qui sont au pouvoir ont annoncé 700 000 emplois sur les 5 ans. Ça veut dire 140 000 emplois par an. Nous nous comptons sur la presse pour nous dire en fin d'année s'il y a eu 140 000 d'emplois nouveaux créés au Burkina Faso.
Zoubana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, on braque les projecteurs sur les femmes. Au-delà de la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de faire un bilan sur les acquis, les revendications et les tabous. Où en est-on de la parité, de l'accès aux soins et à l'éducation, ou encore de la prise en compte des violences faites aux femmes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
En Europe, alors que la crise migratoire perdure, les Africains sont toujours aussi nombreux à tenter de rejoindre le vieux continent. Et nombreux sont ceux qui passent par la Libye. Le Niger est souvent la dernière étape avec Agadez, avant de passer la frontière libyenne. L'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinault, a rencontré à Niamey ceux qui ont renoncé à l'Europe et qui tentent de rentrer chez eux.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Gabriel de Garbado, à Niamey, ils sont une dizaine à être venus recevoir de l'aide de la part de la mission catholique. Tous ont tenté le rêve européen, mais ont échoué en Libye ou au Maroc. À court d'argent et plein de désillusions, ces Africains ont décidé de rebrousser chemin. Avec ses locks et son bandana sur la tête, Henri a quitté Yaoundé en 2014. 2 ans de galère, mais il affirme ne rien regretter.
Ouais, déjà, j'ai eu soif d'aventure, j'ai voulu découvrir de nouvelles terres et pourquoi pas, j'ai tenté aussi d'aller de l'autre côté de l'Europe, comme tout Africain qui en rêve. Pour étranger, j'ai perdu des sous que j'avais plus rien et alors j'ai fait un retour en Algérie. En Algérie, j'ai séjourné un petit peu, quelques mois, et après je suis redescendu, une fois que j'ai compris la réalité.
Beaucoup ont dépensé des centaines d'euros pour tenter l'aventure. Stéphane a tout quitté à Douala, sa femme, sa fille et son petit commerce. Il garde un goût amer et les stigmates de son passage au Niger.
J'ai rencontré pas mal de difficultés, surtout avec la police nigérienne, parce que là-bas, ils ne sont pas vraiment humains, quoi. C'était entre Maradi et Agadez. Ils m'ont dépouillé et puis ils m'ont abandonné dans le désert. J'ai parcouru à pied plus de 36 km avant de rejoindre la ville.
Tous décrivent cette même violence de la part des passeurs, des différentes polices et de tous ceux qui font de l'argent sur le dos des migrants. Il y a aussi les abus nombreux, notamment les viols que subissent les femmes. Rachel était coiffeuse à Douala. Elle reste traumatisée par son agression à Oran, en Algérie.
J'ai compris que ça arrive, dans tous les pays ça arrive. La violence peut sortir en pleine journée, en rentrant, et t'agresse. Le grave problème qui est là-bas, c'est que si un Algérien t'agresse même devant 100 Algériennes, personne n'y riposte. On lui laisse, il fait ce qu'il a fait et il part. Que toute femme qui veut prendre la route soit seulement courageuse et forte.
Ces tristes récits, Laurentine Dano en a vu des centaines. Il est volontaire pour aider ces migrants à rentrer chez eux, mais refuse de les aider s'ils s'entêtent à vouloir gagner l'Europe.
Ceux qui traversent ici et qui vont au désert, qui veulent aller en Libye et qui veulent, la finalité, c'est de traverser, aller en Italie. Nous ne pouvons pas les aider parce que s'il advenait que notre appui aide quelqu'un à aller au désert et meurt, l'Église aura envoyé les gens à la mort. Or, ce n'est pas sa vocation.
Avec son t-shirt jaune et ses yeux d'enfant, George espère rentrer vite au Libéria. Il a vendu il y a 6 mois sa moto pour partir, un choix qu'il regrette.
Vous savez, ceux qui sont déjà à l'Italie envoient des photos, nous disent que c'est beau là-bas, qu'il faut les rejoindre. C'est donc par pure pression que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour partir. En fait, cet argent, j'aurais dû mieux l'utiliser au Libéria. On est en Afrique, on a tout.
En 2015, 130 000 migrants ont réussi à gagner l'Italie en traversant la Méditerranée. Au moins 3 771 ont perdu la vie, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
Parlons de la visite d'État du Premier ministre canadien à la Maison-Blanche, la première depuis 19 ans pour ce genre de visite. Pour agrémenter cet événement, l'exécutif américain a prévu un accueil en grande pompe. La rencontre entre Justin Trudeau et Barack Obama, c'est l'occasion de mettre à lumière le changement de cap et de style opéré à Ottawa par rapport à Stephen Harper. Éric Manirakiza a joint l'éditeur et rédacteur du magazine transatlantique Chika Kanyuri.
Probablement, le président Obama a vu à M. Justin Trudeau quelqu'un qui lui ressemble d'abord, puisqu'ils sont à peu près presque de la même génération, peut-être avec 10 ans de différence. Et puis aussi, il a la même façon d'aborder les problèmes, notamment, par exemple, en ce qui concerne le climat, donc la lutte contre les changements climatiques, alors que le premier ministre qui était avant, M. Harper, lui avait carrément sorti le Canada de l'accord de Kyoto, puisque lui, il est très lié au monde du pétrole. Et puis en plus, il avait fait mal au président Obama quand il est allé traiter avec les républicains pour aller essayer de faire passer le pipeline de Kingston, alors que le président Obama a dû mettre son veto. Et depuis ce moment-là, les relations étaient totalement... Donc, elles n'étaient plus bonnes quoi, entre eux. Quoi.
Les États-Unis sont très engagés dans la lutte contre l'État islamique, mais le Canada a retiré ses avions de combat F-18. Est-ce que vous pensez que Trudeau peut revoir sa copie à l'issue de la visite?
Non, je pense plutôt au contraire qu'ils se sont entendus, je crois, puisque le président Obama en avait un peu parlé. Ce que le Canada, ce n'est pas quand même une grande puissance militaire, premièrement. Donc, il y avait à peu près 6 avions. Puis les gens se sont dit, pendant les élections, celui qui est devenu le premier ministre Trudeau l'avait dit, disait, avec ça, on ne faisait pas grand-chose. Il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Et donc, il a dit, il serait mieux d'aller faire ce que le Canada sait faire. Par exemple, il dit les États-Unis ont toute la force qu'il faut et les autres pour combattre. Mais lui dit ce que nous on peut faire, ce que le Canada peut faire. Par exemple, c'est la formation des militaires. Il a triplé le nombre de soldats qui sont envoyés sur le terrain pour la formation.
Oui, Monsieur Trudeau est très allergique contre un candidat républicain potentiel
En fin de compte, c'est aussi bon que je crois qu'ils ont intérêt de deux côtés quand même. Le président Obama, il avait intérêt à montrer quelqu'un qui lui ressemble un peu quand même, puisque les libéraux sont quand même plus proches de démocrates que de gens comme vous dites, des candidats là, qui essaient même de créer des murs partout. Quoi.
Est-ce une manière indirecte de montrer aux Américains qu'il faut un démocrate à la Maison-Blanche pour que le Canada et les États-Unis continuent?
Absolument, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Au Canada, il n'y a personne qui doute de ça. Le dernier premier ministre qui avait une visite officielle, c'était Jean Chrétien. C'était un libéral avec le démocrate Bill Clinton. Le lien est plus direct.
Chika Kanyuri, joint à Montréal, au Canada.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Nachoua Calais. Et à la présentation, Chérubin Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.